Nous prenons la parole dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Alors, bien-aimés, nous nous souvenons que lorsque Jésus-Christ avait prêché à un moment donné, plusieurs de ses disciples sont partis parce que Jésus-Christ avait dit qu'il fallait manger sa chair. Alors, ces paroles étant esprit et vie, seuls les humbles pouvaient comprendre. Pour les orgueilleux, cette parole était comme voilée. Alors lorsque le Seigneur a parlé ainsi, beaucoup de disciples sont partis. Et le Seigneur s'adresse aux autres disciples qui sont restés. Mais vous aussi, vous ne partez pas. Et l'un des disciples va répondre, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, où aller? C'est auprès de toi que nous avons la vie. Cette vie que le monde ne peut pas donner, que le monde ne peut pas offrir. Seigneur, c'est auprès de toi que nous l'avons trouvée. Alors, quoi chercher d'autre? Où aller encore? Et voici ce que le Seigneur dit au verset 27, Jean 14. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Le Seigneur dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais je ne donne pas comme le monde le donne. Alors, nous comprenons que le Seigneur veut dire que le monde aussi peut nous donner une paix, ou plutôt un semblant de paix. Le Seigneur dit, moi je vous la donne, je vous la laisse. Je ne la troque pas, je ne l'échange pas, je ne vous la vends pas. Je vous la donne gratuitement. Prenez ma paix. Et le Seigneur, à la suite du verset, va nous donner en quelque sorte la définition de cette paix qu'il nous propose. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne soit pas dans l'inquiétude. Que votre cœur soit sans crainte, ne s'alarme point. Qu'il ne soit pas surpris. Qu'il soit dans le calme, dans la patience et dans l'assurance. Et c'est cette paix que le Seigneur nous propose. Et nous voyons aujourd'hui, si nous pouvons donner quelques exemples du semblant de paix que le monde nous donne, mais qui est une paix sur laquelle nous ne pouvons pas être fondés à 100%. Nous voyons aujourd'hui dans beaucoup de pays où il y a eu des guerres civiles, où l'organisation politique n'est pas en place ou est instable. Alors, il y a des organisations de plusieurs pays, comme l'ONU, qui vont proposer une aide pour pouvoir maintenir une certaine paix. Mais cette paix qui est donnée n'est qu'une paix matérielle, une paix qui est soutenue par des militaires, une paix qui est soutenue par des armes. Et on nous dit, voilà la paix qu'on propose, afin que le peuple soit en paix. Alors comment être en paix lorsque nous marchons dans un pays où peut-être qu'il n'y a pas la guerre, mais où nous voyons des soldats avec des armes? Si réellement tout va bien, pourquoi des armes? Pourquoi des militaires? Pourquoi une armée si on nous dit que tout va bien? Pourquoi des menaces si on nous dit que tout va bien? Pourquoi marcher avec des gardes du corps si on nous dit que tout va bien? Le monde vous donne une paix, mais moi je vous donne une paix, mais pas comme le monde. Le monde donne une paix, mais c'est une paix qui est instable. C'est une paix dans laquelle nous marchons, mais avec des craintes, parce que nos yeux démontrent la réalité des choses. Nos yeux nous montrent que les choses ne vont pas aussi bien qu'on le pense. Nous sommes dans des pays où il y a la stabilité, où nous pouvons manger chaque jour comme nous voulons. Mais pourquoi nos gouvernements continuent à vendre des armes? Pourquoi achètent-ils des armes? Pourquoi ont-ils des projets encore de recruter d'autres militaires si tout va bien? Où est la paix, bien-aimés? Nous sommes dans le monde. Et ces choses doivent être afin que nous puissions réaliser que nous sommes dans le monde. Cette paix, bien-aimée, que nous avons trouvée seulement dans le Seigneur, elle est aussi conditionnée. Parce que cette paix, nous ne pouvons la vivre que si nous manifestons une foi et une confiance totale dans le Seigneur. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, combien de personnes touchent à la drogue parce qu'ils recherchent une certaine paix. Comme le Seigneur dit, cette paix nous amène à une tranquillité, nous amène à un calme, à une confiance, à une assurance. Alors le monde, ne pouvant pas la procurer directement, beaucoup par leurs propres moyens cherchent à vivre cette paix. Alors ils prennent des extasies, ils prennent de la drogue, ils prennent de l'alcool, bien aimé. Mais le temps de l'effet de la drogue, le temps de l'effet de l'alcool, ils vont oublier, ils seront dans une paix, une certaine paix, bien aimé. Mais lorsque l'effet de la drogue, l'effet de l'alcool sera terminé, alors la réalité de la vie reviendra. Et c'est ça cette paix que le monde propose, c'est une paix qui est momentanée, c'est une paix qui est courte, éphémère, bien-aimée. Et beaucoup, en la recherchant, finissent par se suicider. Parce que après avoir eu beaucoup d'argent, en pensant qu'ils allaient pouvoir avoir cette paix, mais ils se rendent compte que beaucoup d'argent, c'est beaucoup de problèmes, parce que beaucoup d'ennemis, on met des systèmes d'alarme de gauche à droite, on cherche à avoir des véhicules blindés à cause de la richesse qu'on a. Lorsque l'on voyage, on appelle à tout moment pour vérifier si tout va bien. On n'a rien touché. On est en contact perpétuel avec les banquiers, avec les assureurs, pour savoir si tout va bien, bien-aimé. Et c'est ça, la paix que le monde propose. Mais lorsque ces personnes ont touché à ce qu'ils pensaient avoir comme paix, bien-aimé, lorsqu'ils ont atteint le niveau qu'ils voulaient atteindre en pensant qu'à ce moment-là, ils seront dans cette paix et qu'ils se rendent compte que finalement, ce n'est pas la paix. Ils sont encore plus malheureux. Nous voyons aujourd'hui combien de stars du showbiz, du star de la musique, finissent par la dépression nerveuse. Ils pensaient arriver à un certain niveau en se disant « Mais là, je mettrai ma famille à l'abri. Mais là, j'épargnerai. » Lorsqu'ils arrivent à ce niveau, bien-aimé, il y a une popularité. Il y a tout un système autour qu'ils ne peuvent pas supporter. Et beaucoup, bien qu'ils aient de l'argent, ils n'ont plus d'appétit. Ils n'ont plus de sommeil parce que le niveau qu'ils voulaient atteindre finalement les a rendus malheureux. Ils ont commencé alors qu'autrefois, ils n'avaient peut-être pas des moyens pour s'acheter de la drogue. Mais lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont les moyens pour se procurer de la drogue facilement et beaucoup sont détruits. Combien de témoignages on a entendu des acteurs, des musiciens, des sportifs qui avaient tout, mais ils ont touché à la drogue. Et bien que nous, on les voyait en forme, on les voyait dans des belles voitures, c'était des personnes qui étaient malheureuses. Nous voyons comment Michael Jackson a terminé. Non pas simplement la fin que nous voyons comme tragique, bien-aimé, mais lorsque nous lisons le témoignage finalement de sa vie, on se rend compte que c'était une personne qui n'était pas heureuse. Qui n'était pas heureuse, qui a été programmée pour réussir depuis son enfance, qui n'a pas eu d'enfance. Alors quand il a grandi à l'âge adulte, il se prenait encore pour un enfant bien-aimé parce qu'on lui a retiré cette enfance-là en échange de la richesse, en échange du succès. Et on a vu, il ne dormait pas. Pour dormir, il fallait même qu'on lui mette qu'on lui prescrit des médicaments anesthésiants bien-aimé parce qu'il ne pouvait pas dormir. Est-ce que c'est ça cette paix? Le monde te propose une paix dans la richesse, mais en contrepartie, il te répondra quelque chose, bien-aimé. Le monde ne peut rien nous donner gratuitement. Le monde ne peut rien nous donner facilement. On nous demandera du résultat et on nous demandera des comptes. Et le jour où nous refuserons d'être satisfaits par cette paix que le monde nous propose, bien-aimés, alors il nous redemandera tout ce qu'il nous a donné. Combien d'entre nous, bien-aimés, nous avons connu des problèmes dès l'instant où nous avons accepté le Seigneur? Parce que finalement, dans le Seigneur, nous avons trouvé cette paix que le monde ne pouvait pas nous donner. Alors le monde dit, mais puisque tu ne veux pas de ma paix, rends-moi tout ce que je t'avais donné. Et c'est là où nous nous retrouvons enfants de Dieu et beaucoup de problèmes que nous ne vivions pas autrefois se manifestent aujourd'hui. Parce que le monde ne peut pas donner les choses gratuitement. Mais le Seigneur dit, moi je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais cette paix-là, bien-aimés, nous ne pouvons que la vivre que si nous acceptons de faire confiance au Seigneur. Que si nous acceptons et que nous réalisons que dans le Seigneur, finalement, nous avons tout. Tout ce que l'homme a besoin, c'est cette paix. Parce que la paix, bien-aimés, ne satisfait pas la chair. La paix satisfait l'âme. Et c'est la paix de l'âme que nous avons besoin. Si le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Bien-aimés, pour vivre dans un monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous entendons chaque jour dans les informations des mauvaises nouvelles entre les enfants qui sont enlevés, entre le meurtre, entre les tricheries, bien-aimés, entre les vols. Nous voyons bien que c'est un monde dans lequel il n'y a pas d'espérance. Et le Seigneur dit que pour vivre dans ce monde-là, vous avez besoin de ma paix. Sans la paix du Seigneur, bien-aimé, nous ne pouvons pas vivre sur cette terre et nous ne pouvons surtout pas le servir. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne digne du Seigneur si nous ne marchons pas dans cette paix. Le travail que nous faisons chacun à notre niveau, sans la paix, bien-aimé, nous ne pouvons pas bien le faire. Nous voyons aujourd'hui combien de résultats d'examen sont faussés, bien-aimés, simplement parce que des correcteurs n'ont pas la paix. Il vient corriger la feuille d'examen, mais il vient avec les problèmes de son couple. Il vient avec les problèmes de son foyer. Il est perturbé. Il n'a pas envie de passer du temps sur la copie et il est influencé par cela. Bien-aimé, je ne dis pas ça parce que je l'ai vécu. Je le dis parce que j'ai eu le témoignage d'un professeur qui corrigeait. Il dit, mais voilà comment ça se passe. Alors, lorsqu'on corrige les premières feuilles, on peut mettre des bonnes notes. Mais lorsque ça fait, au bout de 3 heures, 4 heures qu'on est dessus, on veut accélérer les choses. C'est lui qui me dit ces choses-là. Voilà. Et tout est fondé, bien-aimé, tout est fait en fonction de la paix. Or, c'est cette paix, bien-aimé, qui fait que nous soyons de bonne humeur ou pas. Donc, lorsque une personne n'est pas en paix, il ne fera pas correctement son travail. Il y a des personnes, bien-aimées, qui sont mortes, des personnes qui travaillent, une personne en tout cas que je connaissais, qui travaillait dans le bâtiment. Alors, sur leur passerelle qui monte pour construire, bien-aimé, il travaillait mais avec des soucis. Il n'avait pas la paix parce que dans son foyer, ça ne fonctionnait pas, bien-aimé. Il est tombé par-dessus. Un moment, s'arrêter pour réfléchir, pour penser, et il a basculé, bien-aimé. Il est mort. Lorsque nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas faire correctement, bien-aimé, même des choses qui peuvent paraître simples. Nous voyons aujourd'hui combien de femmes, quelquefois, qui sont maltraitées, alors qu'ils vont se réfugier dans de l'alcool ou quelquefois être mis sous médicaments, dans des antidépresseurs. Et nous voyons, bien-aimé, le résultat du manque de paix que ses parents ont. Nous le voyons à travers les enfants. Nous voyons l'éducation que l'enfant a. Il est quelquefois livré à lui-même parce que les parents ne sont pas en paix. Sans la paix du Seigneur, nous ne pouvons pas, bien-aimé, avoir une vie confortable. Dans ce monde, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Combien même on aurait tous les moyens du monde, tout l'or et l'argent du monde, mais sans cette paix-là, bien-aimés, nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes rien. Vous voyez des rois comme Nebuchadnezzar, bien-aimés. C'était des rois qui avaient des empires comme il n'y en a pas aujourd'hui. Comme il n'y en a pas aujourd'hui. Mais tourmenté, on lui enlève la paix simplement à partir d'un songe. Il a des esclaves, il a des châteaux, il a de l'or et l'argent. Tout le peuple est à ses pieds, bien-aimés. Mais juste par un songe, il est tourmenté et il n'a plus la paix. Juste par un songe. Bien-aimé, l'homme dans sa constitution est fragile. Et sans la paix de Dieu, il ne peut pas produire de bonnes choses. Le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais en réalité, bien-aimé, c'est une proposition que Dieu nous fait. Il dit, je vous propose ma paix. Et nous ne pouvons vivre que cette paix que si nous acceptons de vivre aussi avec les conditions qu'il nous propose. Avec ses propres conditions, avec sa parole, c'est ainsi que nous pourrions être dans la paix. Ainsi, bien-aimé, quelles que soient les mauvaises nouvelles, la Bible dit que le juste ne les craint point. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est attaché à l'Éternel, son cœur est fondé sur la parole de Dieu. Donc, quel que soit ce qu'il entend, lui, il reste en paix. Parce qu'il sait que son Dieu est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, lorsque nous marchons avec cette logique-là, que Dieu est au-dessus de tout, qu'il peut tout et qu'il contrôle tout, quelles que soient les nouvelles que nous entendons, je peux, bien-aimé, nous accorder que nous pouvons être déstabilisés un court instant. Mais lorsque le souvenir de la parole revient, on se dit, ben non, il n'y a pas un oiseau qui tombe du ciel sans que Dieu le sache. Alors si Dieu connaît même le nombre de nos cheveux, il sait aussi combien sont le nombre de mes ennemis, il sait aussi combien sont grandes de mes dettes, mais il va s'en occuper. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Et nous ne pouvons vivre que cette paix, bien-aimée, que si nous acceptons de mettre notre confiance totale dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous voyons que dans notre vie, nous n'expérimentons pas toujours cette paix. À cause des soucis que le monde aussi, les soucis du monde, les soucis de la vie, il y a des factures à payer. Il y a les enfants que Dieu nous a donnés. Il faut s'en occuper. Il faut pourvoir. Mais lorsque la situation dans laquelle nous sommes ne nous laisse pas, ne nous donne pas la paix que les choses pourront aller ou bien qu'on pourra survenir à tel ou à tel besoin, voilà que l'ennemi utilise ces situations-là pour nous enlever cette paix. Et cette paix ou bien cette situation dans laquelle le Seigneur nous a mis volontairement pour nous amener à grandir, pour nous amener à le connaître, finalement devient un fardeau. Le Seigneur a dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Lorsque Dieu nous bénit aujourd'hui, quelle que soit la manière bien-aimée, c'est pour nous faire du bien et pour nous amener à grandir dans la foi avec lui. Mais lorsque la bénédiction de Dieu devient maintenant un obstacle pour nous bien-aimés, c'est que nous ne l'avons pas prise comme il fallait et nous ne l'avons pas acceptée comme il fallait. Ainsi, beaucoup que Dieu a bénis financièrement sont devenus orgueilleux plus que pas possible, bien-aimés. La bénédiction qui devait l'aider à servir le Seigneur, à comprendre que Dieu était au-dessus de tout, est devenue une bénédiction qui l'emmène à devenir pire qu'un païen. Cette bénédiction-là est devenue comme un fardeau qui devient difficile. Lorsque Dieu nous donne des enfants bien-aimés, mais c'est pour nous bénir, c'est pour nous faire du bien. Et pour beaucoup d'hommes, les enfants sont devenus un fardeau, un sujet de dispute, un sujet de divorce quelquefois entre les parents qui n'arrivent pas à s'entendre sur l'éducation des enfants ou bien parce que les enfants les mènent en bateau et arrivent à les diviser. Donc ce qui devait être comme une bénédiction est devenu une pierre d'achoppement qui emmène des querelles et qui emmène des divorces, bien-aimés, parce que nous n'avons pas géré les bénédictions du Seigneur comme il le fallait. Et beaucoup d'entre nous, bien-aimés, que Dieu a fait grâce de toutes sortes de manières. Même dans ce que nous pouvons appeler malheur, pour le Seigneur, c'est une grâce. Car Dieu a créé le jour du malheur et le jour du bonheur identiquement. Donc aussi bien que lorsque un malheur arrive, nous voyons simplement la difficulté, au lieu de voir le défi de Dieu dedans, au lieu de voir la manifestation que Dieu veut nous montrer, au lieu de voir, de discerner la gloire que Dieu veut nous montrer après cette épreuve-là. Mais nous restons dans ce problème. Ça devient un fardeau qui devient difficile, bien-aimé. Et lorsque nous portons des fardeaux, bien-aimé, ça devient très, très compliqué. Si on nous met des poids aujourd'hui pour courir, bien-aimé, la course va être difficile. Et beaucoup risquent d'abandonner. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dans tout ce que Dieu permet, bien-aimé, c'est pour nous faciliter le travail, pour nous faciliter la vie, pour nous apprendre et surtout pour se révéler à nous. Mais malheureusement, beaucoup de choses que Dieu nous a données sont devenues des fardeaux. Et on ne peut pas servir le Seigneur avec des fardeaux. On ne peut pas être heureux sur cette terre, bien-aimé, avec des fardeaux. Nous lisons Matthieu chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28. Et beaucoup d'entre nous, bien-aimés, qui portons quelquefois des fardeaux, on ne s'en rend même pas compte. On ne sait toujours pas, on ne s'en rend pas toujours compte que quelquefois, lorsque la prière devient très lourde, c'est parce que les fardeaux, nous les portons très mal. J'ai déjà donné ce témoignage, bien-aimés, lorsque je suis rentré de l'Afrique, il y a quelques mois, j'ai passé des jours, moi qui ai du mal à m'endormir en général, il suffisait que je pose la tête en 5 minutes, c'était le sommeil profond. Alors ça a duré 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai dit mais cette fatigue n'est pas normale. Il n'y avait qu'à cette époque-là qu'une heure de décalage, donc ce n'était pas comme si le décalage horaire était conséquent qui pouvait justifier cette fatigue-là. Alors, lorsque ça a commencé à durer, j'ai compris que ce n'était pas normal. J'ai prié. La réponse que je reçois, c'est que je suis soucieux par rapport à ma famille. Alors qu'au fond de moi, je ne voyais pas du tout comment j'étais soucieux de ma famille. Alors, comme je n'avais pas réfléchi spécialement et que cette réponse est venue de manière spontanée, j'ai pris ça au sérieux, j'ai prié. Seigneur, ben, si c'est le fardeau de ma famille qui me rend comme ça, alors je m'en repens, je demande pardon et je te le dépose à tes pieds. Et je le fais sincèrement, bien que au fond de moi, je ne sentais pas que c'était vraiment ça parce que ben, dans mon cœur, je ne pensais pas que j'avais le fardeau de la famille. Alors, bien-aimé, dès l'instant où j'ai fait cette prière-là, le jour même, le soir, eh ben, cette prière est terminée. Cette fatigue, c'est terminé. Donc, je me sentais bien. Donc, cet état dans lequel j'étais maintenant me confirmait que c'était vraiment ça le problème. Alors, j'ai compris que oui, on peut porter des fardeaux sans s'en rendre compte. Bien-aimé, lorsqu'on porte un fardeau d'une manière que Dieu ne veut pas, ce fardeau va nous rendre la vie difficile, va nous rendre la prière compliquée, va nous rendre les relations avec les uns et les autres compliquées, simplement parce qu'il y a une chose dans notre vie que nous ne portons pas comme Dieu l'attend de nous. On le porte mal. Et le souci que j'avais, je me disais, bon, je suis parti, j'ai laissé ma mère avec tel problème. Alors si j'aurais pu avoir cette somme, j'aurais pu régler son problème-là. Et ça, c'était une très mauvaise manière de porter le fardeau. Au fond de moi, je me suis dit qu'avec cet argent, j'aurais pu régler le problème de ma mère. Oh, c'était faux. J'aurais pu régler le problème de ma mère par la prière. C'est ça que le Seigneur voulait me faire comprendre. Porter mal le fardeau va nous amener à croire que de nos propres forces ou par notre situation ou par nos moyens, on pourra résoudre le problème. Or, il n'y a aucun problème sur cette terre qui puisse être résolu par l'argent ou par les armes. Parce que si c'était le cas, bien-aimé, les gens ne mourraient pas à partir de maladies bénignes. Ils paieraient tout simplement et on les soignerait, bien-aimé. Mais à ce moment-là, l'argent ne peut rien faire. Si c'était les armes qui garantissaient la paix, bien-aimé, ben, il n'y aurait plus de guerre aujourd'hui. Mais bien qu'il y ait des armes et qu'il y ait des armées, qu'il y ait toutes sortes d'organisations, bien-aimé, les guerres continuent. Nous voyons dans certains pays où il est interdit de voler si on te coupe la main. Mais bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, on continue de couper les mains parce que les gens volent. Donc ce n'est pas par ces moyens-là que finalement on peut rétablir la paix. Ce n'est pas par des moyens physiques, des moyens humains qu'on peut résoudre les problèmes. Et le fait d'avoir un manque de paix, bien-aimé, le fait d'avoir une vie chrétienne difficile, souvent c'est parce que nous portons mal les fardeaux. Lorsque le Seigneur nous montre la réalité spirituelle de notre famille, bien-aimé, ce n'est pas pour nous amener dans des veillées de prière ou dans des veillées comme on pleure les morts ou dans des tristesses pas possibles. C'est tout simplement pour nous faire relever et nous montrer la réalité pour que l'on puisse prier, prendre la chose au sérieux de manière spirituelle. Et bien souvent, nous prenons la chose pour nous et nous devenons ici comme des esclaves, surtout pour ceux qui ont de la famille à l'étranger. On cherche à tout prix du travail, des fois deux travails, on travaille le matin, le soir pour envoyer de l'argent, bien-aimé, et on pense que c'est comme ça. Et ça dure des années et des années, et les gens là-bas ne changent pas. Pour changer, ils ont besoin aussi de recevoir le Seigneur, bien-aimé. Ils ont besoin de recevoir le Seigneur. Le fardeau, nous devons le porter dans la prière, le temps de le déposer aux pieds du Seigneur. Voilà ce que dit la Bible, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Voilà la proposition que le Seigneur nous fait. Dans cette paix qu'il nous donne, dans cette paix qu'il nous propose, il dit : venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes fatigués par les réalités de la vie, venez à moi, je vais vous décharger. Voilà la proposition que le Seigneur nous fait. C'est pourquoi ses disciples ont dit, mais Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Où on va aller encore, Seigneur? C'est toi qui nous donnes la vie. Dans le monde, ils étaient accablés par les réalités de la vie, par les réalités du monde. Avoir le souci de ce qu'ils devraient manger demain. Avoir le souci de ce qu'il fallait donner aux enfants. Mais Dieu dit non, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'inquiétude pour le lendemain. Car il dit que lui qui pourvoit même pour les oiseaux, il pourvoira aussi pour nous. Il dit pourquoi vous inquiétez au sujet du manger et du boire. Regardez les fleurs, elles sont même mieux vêtues que Salomon dans toute sa gloire. Alors vous qui valez plus que tout cela, Pourquoi vous inquiétez-vous pour ce que vous devrez manger, pour ce que vous devrez boire? Il dit, le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit à sa peine. Voilà la proposition que le Seigneur nous fait encore ce matin, si nous voulons vivre dans cette paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, nous portons des fardeaux, nous portons des jougs, bien-aimés. Les jougs, les fardeaux, c'est tout ce qui peut être contraignant, tout ce qui est gênant, bien-aimés. Vous voyez un peu lorsque vous devez marcher avec des sacs de course en main, avec le sac à dos, vous devez prendre le bus, le métro avec tout ça. Bien-aimés, c'est encombrant et ça nous rend la vie difficile. Le Seigneur dit, déchargez-vous de tout ça. Déchargez-vous de tout ça. Voilà, afin que nous puissions avoir une vie paisible, une vie fondée, posée sur le Seigneur, sur sa parole. Il n'y a qu'ainsi, bien-aimé, que nous pourrons aller jusqu'au bout et tenir ferme. Le Seigneur dit que mon joug à moi, il est léger. La paix que Dieu nous donne, comme je l'ai dit, qui est conditionnée par le fait que nous devions lui faire confiance. Eh bien, en échange, le fardeau qu'il nous demande, c'est tout simplement de lui faire confiance, de marcher par la foi. C'est ça le joug du Seigneur, de compter sur lui. Voilà, il dit décharger, qu'on se décharge sur lui de tous nos problèmes, de tous nos soucis. Lui, il va les prendre, il va les porter, parce qu'il est déjà porté à la croix. Et il dit en échange, que nous puissions nous porter son joug à lui, son fardeau qui est léger. Le fardeau simplement d'avoir la foi, de compter sur lui, d'oser avoir la foi, d'oser compter sur lui, de compter sur l'invisible. C'est ça la proposition que Dieu nous fait. Et il nous dit que ça c'est léger. Ça c'est léger parce qu'il est doux et parce qu'il est humble, bien-aimé. Une personne qui est humble cherchera toujours le bien de l'autre. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point, que votre cœur ne soit pas dans l'inquiétude. Et il nous dit, mais qui par ses inquiétudes peut prolonger sa vie? Qui par ses inquiétudes peut régler ses problèmes? Et bien aimé, le Seigneur a dit que c'est la paix de l'âme qu'il nous propose. Ce n'est pas par des efforts, bien aimés. On peut travailler, avoir un salaire et régler les problèmes sur le plan matériel. Mais sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, bien aimée, il n'y a que le Seigneur qui peut nous garantir cette paix-là. Et il nous dit que ce n'est pas par nos inquiétudes qui sont liées aux soucis de la vie que nous pourrons changer le cours de notre vie. Ce n'est pas par des réflexions, bien-aimés, ce n'est pas par des mathématiques que l'on pourra changer la paix ou la réalité qu'il y a dans notre propre cœur, bien-aimés. Mais c'est en faisant confiance simplement au Seigneur, bien-aimés. Et je le disais, c'est une mauvaise manière de porter le fardeau, bien-aimés, en réfléchissant et en se disant que c'est par nos propres efforts qu'on va pouvoir changer le cours de la vie. Nous voyons aujourd'hui combien de personnes sont inquiets, même quelquefois, soi-disant, pour l'œuvre de Dieu, bien-aimés. Mais réalisons, bien-aimés, comprenons que nous ne pouvons pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Il y a des personnes, dans leur manière de se justifier et de murmurer, c'est comme s'ils avaient plus d'amour que le Seigneur. Mais tel il est encore là, Seigneur, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi Dieu ne le sauve pas? Pourquoi Dieu ne fait pas ceci? Pourquoi Dieu ne m'utilise pas, bien-aimé? C'est comme si on avait plus d'amour pour Dieu pour aller sauver les gens. Dieu a donné son Fils unique. C'était la démonstration qu'il aimait le monde plus que tout, Seigneur, bien-aimé. Il aimait tellement l'homme, Dieu aimait tellement l'homme qu'il a donné son Fils unique. Et dans notre comportement, bien-aimé, ça donne l'impression, c'est comme si nous avions quelquefois plus de compassion que Dieu. Dieu n'agit pas assez vite. Dieu n'exauce pas assez vite. Bien-aimé, c'est parce que nous portons mal le fardeau. Nous voulons simplement que Dieu nous utilise, comme on nous l'a prêché, bien-aimé, être le centre de l'action de Dieu, que Dieu passe par nous pour régler les problèmes. Ainsi, si Dieu nous utilise, on sera en paix parce que ça nous donnera l'impression que les choses avancent plus vite. Bien-aimé, c'est faux. Dieu peut utiliser des animaux, il peut utiliser la nature, bien-aimé, pour faire son œuvre. Nous sommes des instruments et des pions inutiles que Dieu utilise simplement par son amour. Il pourrait faire les choses autrement. Mais la grâce et le privilège est pour nous, bien-aimés, que Dieu nous ait choisis pour pouvoir travailler dans sa moisson. Nous n'avons aucun mérite, mais lorsque nous cherchons à tout prix à être un acteur, bien-aimé, c'est que nous portons mal le fardeau de l'œuvre de Dieu. Beaucoup, même certains, même tombent en dépression à cause d'un fardeau qu'ils auraient pour le Seigneur. Le Seigneur dit que son fardeau est doux et léger. C'est quel fardeau de Dieu qui va nous emmener dans la dépression, bien-aimés? Quel fardeau du Seigneur qui va nous emmener à nous rebeller ou bien à murmurer contre lui? C'est nous qui avons un problème. Nous avons mal compris le problème du Seigneur, nous avons mal compris l'œuvre de Dieu et en finalité nous portons très mal le fardeau et ça nous emmène dans des complications, dans des bizarres bien-aimés, dans des complications inutiles parce que nous considérons l'œuvre ou l'action que Dieu veut faire comme si elle dépendait de nous ou comme si elles étaient à nous, bien-aimés. Et c'est ça qui nous rend la vie chrétienne malheureuse, parce que nous portons mal les fardeaux que le Seigneur nous demande de porter dans la prière, bien-aimé. Nous les mettons sur notre compte, bien-aimé, et nous marchons, le dos commence à être courbé parce que le fardeau est trop lourd, bien-aimé. Si le Seigneur nous dit qu'on a besoin de cette paix, parce qu'il sait comment il a créé l'homme et il sait le niveau de l'homme, il connaît le fardeau que l'homme peut supporter. Il y a des choses, bien-aimés, que nous ne pouvons pas supporter. Aujourd'hui, il y a des réalités que des parents gèrent, mais qu'on ne va pas révéler à un enfant qui a 6 ans, qui a 7 ans. On va attendre qu'il grandisse, qu'il ait une certaine maturité pour pouvoir lui confier certaines choses. Et le Seigneur fait la même chose avec nous. Il ne peut pas nous confier aujourd'hui des fardeaux qui vont nous emmener à le renier et à perdre notre foi. C'est nous qui avons mal géré la chose, tout simplement. Si aujourd'hui nous sommes dans la rébellion, que nous avons une vie triste, en enviant ceux qui servent le Dieu d'une certaine manière, en se disant « oui, mais lui, c'est moi, je suis là », bien-aimé, c'est que nous n'avons rien compris. Et si Dieu ne nous utilise pas, eh bien, comprenons simplement que nous ne sommes pas prêts pour faire plus. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui va nous amener à la mort. Il dit qu'il a donné Jésus-Christ pour que nous ayons la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle que Dieu nous a sauvés, bien-aimé. Que Jésus-Christ a accepté de porter le fardeau, c'est pour que nous puissions être avec lui un jour. Alors à quoi ça sert d'être mort à la croix si c'est pour nous confier des fardeaux ensuite qui vont nous emmener à l'abattoir? Bien-aimé, ça c'est inutile. C'est comme si le Seigneur était mort en vain, bien-aimé. Mais nous savons qu'il n'est pas mort en vain. Et que si aujourd'hui nous sommes accablés par les souffrances que Dieu permet dans notre vie, c'est simplement parce que nous gérons mal le problème, nous portons mal le fardeau. Il n'y a aucun problème sur cette terre que Dieu peut permettre dans notre vie qui doit nous amener dans les hôpitaux psychiatriques, qui doit nous amener à passer des semaines à l'hôpital, bien-aimé. Ça, c'est faux. Un père donne de bonnes choses à ses enfants. Un père souhaite de bonnes choses pour ses enfants. Alors, à combien plus forte raison Dieu, qui a donné son Fils unique pour l'homme, nous préservera-t-il des mauvaises choses, bien-aimé? Tout ce que Dieu permet pour nous est bon. C'est pourquoi il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu permet dans notre vie, c'est bon pour nous. Mais c'est à nous maintenant d'être dans une bonne communion avec le Seigneur pour bien gérer ce problème, ce fardeau que le Seigneur nous confie, afin que nous puissions prier et le gérer comme lui il veut, et non pas le gérer d'une manière charnelle. Car il le dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bien-aimé, des réflexions et réflexions ne changera pas la réalité du problème. Ça ne changera pas la réalité du problème. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, nous lisons à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Confie-toi en l'Éternel, reconnais-le dans toutes tes voies. Bien-aimés, n'ayons pas dans notre imagination un seul pourcentage de soupçon que nous avons une part quelconque dans tout ce que Dieu fait de bon autour de nous. Ne nous disons même pas que j'ai contribué, que j'ai aidé Dieu, bien-aimé. C'est faux. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. La Bible dit que c'est lui qui est le maître de la vie. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Or, nous savons, bien-aimé, que tout ce qu'un homme peut faire, que ce soit travailler dans les champs, travailler dans l'administration, il peut le faire simplement par la vie. Il peut le faire par le souffle qu'il a. Or, ce souffle-là appartient à Dieu. C'est pourquoi l'homme n'a aucun mérite dans ce qu'il fait, bien-aimé. Aucun mérite. Le Seigneur est clair, il dit, ne te repose pas sur ta sagesse. Ne te repose pas sur ta sagesse. Souvenez-vous lorsque le Seigneur a délivré le peuple de l'Égypte. Il a dit, lorsque vous serez entrés dans ce bon pays où coule le lait et le miel, Israël, attention, garde-toi de te dire dans ton cœur que c'est par tes forces que tu es arrivé là. Garde-toi de te dire dans ton cœur que c'est par ton intelligence que tu t'es acquis toutes ces choses-là. Mais souviens-toi de l'Éternel. Et c'est cette parole qui nous est dit, bien-aimés, dans la manière de porter le fardeau. Mais regardons au Seigneur, souvenons-nous de Dieu, que si c'est lui qui nous donne un fardeau à porter, bien-aimés, mais c'est logique, il nous donne la force qu'il faut. Le Seigneur ne peut pas nous envoyer à la guerre avec la fleur au fusil. S'il nous présente un combat, c'est qu'il nous donnera les armes pour ce combat. Il nous présente devant, bien-aimés, une addition, devant un calcul mathématique, mais il nous donnera les formules pour résoudre ce calcul-là, bien-aimés. Il ne va pas nous envoyer comme ça à l'abattoir, bien-aimés, pour l'échec, gratuitement. Il dit non, qu'on doit se reposer sur lui. Donc les fardeaux que nous avons, bien-aimés, lorsque les choses semblent nous dépasser, apprenons à nous décharger sur le Seigneur. Il dit déchargez-vous. La Bible dit déchargeons-nous sur lui, car lui-même prend soin de nous. Le fardeau que Dieu nous présente, en réalité, bien-aimés, ce n'est pas notre fardeau. C'est le fardeau du Seigneur lui-même. Les gens pour lesquels nous pleurons, les conversions pour lesquelles nous pleurons, bien-aimés, mais ces gens-là, Dieu a donné Jésus-Christ pour eux. Qu'est-ce que nous avons fait pour eux de plus que Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce que nous avons fait de plus? Comprenons que tous les sujets, bien-aimés, qui peuvent dans notre vie nous amener des inquiétudes, mais comprenons que Dieu a un regard posé là-dessus, puisque c'est lui qui permet toutes ces choses-là. Mais il veut, dans son amour et dans sa souveraineté, nous utiliser comme instrument pour résoudre ce problème-là. La solution vient de lui. Nous sommes le canal. Nous sommes les canaux que Dieu a choisis pour être l'instrument pour régler ce problème-là. Mais la solution ne vient pas directement de nous. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Et c'est ça le privilège que Dieu nous donne, bien-aimés. C'est de pouvoir être des instruments de Dieu. Nous qui étions sur la voie de l'enfer, la voie de la mort, bien-aimés, qui avions péché, nous étions des rebelles devant Dieu. Nous avons fait des abominations, bien-aimés, qui méritaient la mort. Mais la Bible dit que le Seigneur a fait tout retomber sur Jésus-Christ. Non seulement pour nous donner la vie. Et encore, le Seigneur ne s'arrête pas là. Il nous utilise encore pour le servir. Bien-aimés, quelle grâce, quel privilège. Quel privilège, bien-aimés, d'être appelé enfant de Dieu. Dieu ne s'est pas simplement limité à nous sauver. Il fait de nous ses enfants. Et encore plus loin, il fait de nous ses serviteurs, bien-aimés. Alors qu'il pourrait simplement nous sauver et nous laisser dans un coin de la pièce, mais encore il nous utilise. Il veut partager sa gloire avec nous, bien-aimés. Le privilège est pour nous. Mais il dit de cette manière-là, nous ne devons pas nous reposer sur notre intelligence. Nous devons totalement nous abandonner entre le Seigneur. Il dit que c'est ça qui va nous procurer la santé. C'est ça qui va rafraîchir nos os, bien-aimés. Si nous apprenons à nous recommander entièrement entre les mains du Seigneur. Et tous ces fardeaux que nous portons, nous les portons mal et nous souffrons, bien-aimés, parce que nous nous accablons de souffrances inutiles. Et il y a des gens qui aiment ça aussi. Il y a des gens qui aiment bien, parce que porter un fardeau comme ça, lorsqu'on voit sur ton visage que tu es dérangé, ça paraît comme si tu étais sérieux, comme si tu avais le souci plus que d'autres. Bien-aimés, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il y a des personnes qui peuvent porter le fardeau du Seigneur, mais ils le portent avec foi, aussi bien que dans leur attitude, ça ne se voit même pas. ils paraissent pour des gens qui sont inconscients, qui n'ont rien à faire du problème, mais c'est tout simplement parce qu'ils ont tout remis entre les mains de Dieu et ils ont cette assurance-là que Dieu réglera le problème. Mais il y a d'autres qui le font, le montrent, ils montrent, ils ont un souci quand tu parles. Donc c'est comme si la personne, il veut montrer qu'il souffre, bien-aimé. Ça, ce sont des souffrances inutiles parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Les grimaces que nous faisons là, même dans le monde, on le faisait quand on était dérangé. Même dans le monde, on le faisait, bien-aimé. Les gens du monde aussi font des grimaces. Ils mettent la main sur la tête, ils tiennent la tête à deux mains pour montrer que ça ne va pas. Bien-aimé, le monde aussi le fait. Mais le Seigneur dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde. Nous ne sommes pas obligés de faire semblant que nous souffrons, bien-aimés. Nous ne sommes pas obligés de justifier que nous sommes intéressés, bien-aimés, parce que c'est un problème qui regarde Dieu. Dieu sait dans le cœur le serviteur ou ses enfants qui ont le souci pour son œuvre, qui ont le souci pour les conversions. Et c'est cela que Dieu va utiliser. Ce ne sont pas ceux, bien-aimés, comme le Seigneur dit, qui vont faire de longues prières devant les gens, qui vont se mettre dans une position où tout le monde est au courant qu'il a jeûné. Tout le monde, il y a des gens, quand ils jeûnent, tout le monde sait qu'ils jeûnent, bien-aimés. Tout le monde sait qu'il est en train de jeûner. Mais c'est un problème. Le Seigneur dit que quand tu jeûnes, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Dieu qui le voit, lui, te le rendra. C'est un problème, bien-aimé, entre nous et le Seigneur. Lorsque nous portons le fardeau, on ne le porte pas pour les autres. On le porte pour Dieu. Et on lui remet à lui-même afin que lui puisse le gérer. C'est ça que le Seigneur attend de nous, bien-aimé. Le Seigneur n'a pas besoin de représentants, bien-aimé, de fardeaux. Il n'a pas besoin de gens qui vont représenter qu'il y a des fardeaux du Seigneur. Il n'a pas besoin de ça. Jésus-Christ a porté ces fardeaux-là, bien-aimés. Et le Seigneur veut que nous, on puisse les porter de manière spirituelle, les porter dans la prière et lui recommander afin que le Seigneur manifeste sa grâce et sa puissance. Ne nous reposons pas sur notre intelligence. Nous n'avons aucune part dans la conversion de tel ou de tel, bien-aimé. Même si tu as jeûné pendant 10 ans, pour la conversion de ta femme ou de tes enfants, ne te dis pas que c'est par ta prière et par ton jeûne que le Seigneur a agi, bien-aimé. La Bible dit que la colère n'accomplit pas la justice. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu n'agit pas parce qu'on a boudé ou parce qu'on s'est mis en colère. Il agit parce qu'il est souverain et parce qu'il veut que les choses soient ainsi. Par nos inquiétudes, nous ne pouvons pas changer le plan de Dieu, bien-aimé. Pas par nos inquiétudes, mais on peut toucher le cœur de Dieu par notre prière et par notre souci dans le cœur. Oui, on peut toucher le cœur de Dieu, pousser le Seigneur à agir à cause tout simplement de l'amour que lui-même par le Saint-Esprit fait manifester en nous. C'est comme ça, bien-aimé, que le Seigneur agira, mais il n'agira pas simplement parce que nous avons manifesté un souci auprès des hommes. Dieu ne fera pas ainsi, bien-aimé. Et mal porter le fardeau va nous amener, bien-aimé, comme je l'ai dit, à une vie chrétienne lourde et difficile. Quelquefois, nous cherchons l'origine des problèmes, l'origine de certains maux, bien-aimés, mais c'est tout simplement parce que nous prenons les choses à cœur de manière charnelle. Et c'est ça qui nous enlève la paix. Et quand on porte fardeau sur fardeau et que ça dure, bien-aimés, ça nous emmène jusqu'au péché. Ça va nous emmener jusqu'au péché, bien-aimés, parce qu'on va se mettre là à murmurer. Ah, mais lui, il prêche, il est toujours devant, pourquoi il n'utilise pas les autres ? Pourquoi il n'y a que lui qui fait ceci? Pourquoi il n'y a que lui qui fait cela? Bien-aimé, au lieu d'être en paix, de se dire que ben non, Dieu est le maître des temps et des circonstances, il m'utilisera quand il veut et comme il voudra. Si telle personne fait telle chose, c'est que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et ce fardeau-là, bien-aimé, d'être mis comme de côté, va nous emmener à murmurer et finalement à pécher, bien-aimé. À pécher. Déchargeons-nous sur nous des fardeaux. Lorsque le fardeau est lourd, bien-aimé, beaucoup se mettent en colère simplement parce que c'est l'accumulation de fardeaux. Et il suffit que toi, tu arrives au moment, comme on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La colère manifeste, c'est comme si ça vient de toi. Mais en réalité, c'est des problèmes qu'il a depuis très longtemps. Il est là en train d'accumuler et tu te retrouves là, tout tombe sur toi, alors que le vrai problème, ce n'est même pas toi. Ce n'est même pas le fait que tu ne l'aies pas salué, le fait ou peut-être que tu lui aies fait une remarque qui va s'emporter. Non, il y avait des choses dans le cœur qui étaient là depuis longtemps. C'était des fardeaux qu'il a refusé de déposer au pied du Seigneur. Et toi, tu arrives là au moment où il ne fallait pas et tu prends tout, bien-aimé. Et beaucoup font ça. Ils se déchargent sur les autres parce qu'ils ne se sont pas déchargés tout simplement sur le Seigneur. Et beaucoup font ça. Et quelquefois, bien-aimé, comme je l'ai dit dimanche dernier, nous avons passé du temps à défendre l'Évangile devant les chrétiens. Au lieu de défendre l'Évangile face aux païens, on défend l'évangile face aux chrétiens bien-aimés. Et beaucoup de ces gens-là, auprès desquels nous sommes obligés de justifier, que la Bible a raison de justifier que Dieu est bon, bien-aimé, c'est parce qu'ils ont des fardeaux qu'ils refusent de déposer. Donc, au bout d'un moment, ils viennent, le pasteur est là, bon, ça sera le punchball du moment-là, je vais me défouler sur lui, et puis ça va passer, bien-aimé. Et c'est comme ça que beaucoup se comportent, parce qu'ils ont des problèmes qu'ils refusent de déposer au pied du Seigneur, et ils voient la culpabilité, ils voient les autres coupables. Ils voient les autres coupables. J'ai travaillé pendant un temps dans un centre d'accueil pour les personnes en situation précaire. Alors, je discutais un moment avec une personne. Il commence à s'énerver sur moi. Mais vous avez dormi où ce soir? Vous avez un appartement. Vous avez dormi dans le chaud. Vous tous, vous êtes pareils. Vous êtes coupables. Oh. Les problèmes qu'il a accumulés, peut-être parce qu'il n'a pas obéi à ses parents, peut-être parce qu'il a été rebelle d'une certaine manière, il n'a pas voulu étudier pour avoir une situation. Il n'a pas voulu payer son loyer, comme c'est le cas de beaucoup. Ils ont l'argent, mais ils refusent. Ils préfèrent vivre avec cet argent que de payer le loyer parce qu'ils se disent, bon, on aura le temps d'être expulsés. Et quand le jour de l'expulsion vient, ils sont dans des problèmes. Et ensuite, ils exercent leur colère sur les autres. Il me dit, mais toi, tu as dormi où? Donc, c'est comme si j'étais la source de son problème. Il m'accuse en disant, oui, tu es coupable avec tous les autres. Vous êtes là, vous travaillez, vous mangez, vous savez, vous allez dormir. Mais nous, on dort dans la rue. Moi, je dis, mais tu ne connais pas aussi ma vie. Tu ne sais pas aussi d'où je viens. Tu ne sais pas aussi ce que j'ai vécu. Et beaucoup, bien-aimés, lorsqu'ils accusent les autres, ils oublient que les autres aussi ont leur fardeau. Le Seigneur a dit que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Et il y a un passage où l'apôtre nous dit, mais consolez-vous, parce que les souffrances que vous avez, vos frères aussi dans le monde, sont affligés, sont aux mêmes souffrances. Donc lorsqu'on porte un fardeau, quelquefois, on a l'impression qu'on est seul. Les gens qui portent des fardeaux souvent disent, mais on dit, il n'y a que moi, pourquoi que moi? Et souvent, on leur répond, mais il n'y a pas que toi, il y a d'autres personnes aussi, pour lesquelles on prie, qu'on soutient, qui ont aussi d'autres problèmes. Donc, quand on vit le problème, et bien aimé, lorsqu'on porte ça comme ça, on devient amer vis-à-vis des autres. On devient jaloux vis-à-vis des autres, parce qu'on a l'impression que les autres sont plus heureux que nous. On a l'impression que les autres ne nous comprennent pas. Moi, je suis dans mon problème, mais lui. Donc, on a l'impression d'être un cas isolé. Bien aimé, Dieu n'est pas injuste. Le Seigneur n'est pas injuste. Dieu veut qu'on se décharge sur lui de tous nos fardeaux. Or, la manière Dieu veut aussi qu'on se décharge quelquefois, c'est en se confiant les uns aux autres, parce que nous sommes un corps. C'est pourquoi il est dit dans Galates 6, « Portez le fardeau des uns des autres. » Mais il y en a qui préfèrent rester dans leur coin avec leur souffrance. Mais il y a quelquefois, le Seigneur veut qu'on puisse partager nos fardeaux afin qu'on puisse se soutenir dans la prière. Mais on s'isole, on reste dans le coin bien-aimé, et ce n'est que des souffrances qui font que de s'accumuler, d'augmenter, jusqu'au jour où c'est la dépression, enfant de Dieu à l'hôpital psychiatrique, bien-aimé. Enfant de Dieu et à l'hôpital psychiatrique. Quelqu'un qui a connu le Seigneur, bien-aimé, qui finit avec des problèmes psychiatriques, c'est qu'il n'a pas eu la foi. Il n'y a que la foi qui peut nous pousser à faire des dépressions nerveuses. Quelqu'un qui a la foi ne tombera pas en dépression nerveuse. Quelqu'un qui compte sur le Seigneur ne tombera pas en dépression nerveuse. Parce que la dépression nerveuse est liée aux soucis, est liée aux problèmes de ce monde. Or, le Seigneur dit qu'on doit se décharger sur lui et accepter son joug à lui. Le fardeau que le monde, il a voulu nous assujettir, qu'on doit s'en décharger et le déposer au pied du Seigneur. Ainsi, nous pourrions réellement vivre cette paix que le Seigneur nous propose. Amen. Souvenons-nous, bien-aimés, nous allons lire le passage, Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20, à partir du verset 7. Nombre 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. » Amen. Moïse, alors qu'il y avait la persécution, Moïse venait de naître et on cherchait à éliminer les enfants mâles des Israélites. Alors, Moïse, donc abandonné sur sa mère sur les eaux, va être recueilli par la famille de Pharaon. Nous connaissons, Moïse va grandir dans la maison de Pharaon jusqu'au jour où il va tuer un Égyptien qui était en train de persécuter un Israélite. Alors, Moïse va prendre la fuite. Pendant des années et des années, il va travailler comme berger. Et un jour, le Seigneur va se révéler à lui et lui faire comprendre que c'est lui que Dieu a choisi pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Alors, nous savons qu'à plusieurs reprises, le peuple s'est rebellé. C'était une tâche difficile que le Seigneur avait donnée à Moïse. Mais toutes ces années, avant que Dieu l'appelle, toutes ces années où il était berger, c'était des années de formation que Dieu permettait dans sa vie. Le Seigneur savait ce qu'il allait faire avec Moïse. Lorsqu'il dit que j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu. Bien-aimé, le Seigneur n'avait pas entendu les cris de son peuple aujourd'hui. Le peuple souffrait en Égypte depuis des années et des années. Mais il manquait l'homme qui allait faire paître ce troupeau. Le Seigneur a attendu. Il a formé Moïse et ensuite il est descendu parce qu'il avait trouvé l'homme pour son peuple. Toutes ces années-là étaient des années de préparation. Et à un moment donné, le peuple a soif. Dieu donne des recommandations à Moïse d'assembler le peuple, de parler, de frapper sur le rocher. Moïse va s'énerver. Il ne va pas faire les choses comme le Seigneur attendait de lui. Il va manifester une certaine colère. Bien-aimé, cette colère était l'accumulation de la rébellion du peuple, des murmures du peuple. Pendant des années dans le désert, ils n'arrêtaient pas de murmurer. La colère qu'ils avaient contre Dieu, ils la refoulaient sur Moïse. Et Moïse a explosé. Et Dieu dit, mais à cause de ça, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Parce qu'à un moment donné, Moïse a porté le fardeau d'une manière charnelle. Et lorsqu'on porte le fardeau de manière charnelle, bien-aimé, on finira par se rebeller contre le Seigneur. C'est déjà arrivé, bien-aimé, lorsqu'on ne comprend pas tout, que quelquefois on est tenté d'accuser Dieu. Parce qu'il laisse une personne dans certains problèmes pour laquelle nous prions depuis longtemps. On dit, mais Seigneur, on a cette tendance à vouloir accuser Dieu. Moïse l'a fait, bien-aimé. Et il n'est pas entré dans la terre promise. Toutes ces années, bien-aimé, qu'il a passées dans le désert, il a suffi d'une erreur pour que le Seigneur l'empêche d'entrer dans la terre promise. Ça, c'était simplement une conséquence physique. Parce que nous croyons bien que Moïse, aujourd'hui, est dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Mais c'est pour dire, bien-aimé, qu'il peut y avoir des conséquences qui peuvent être aussi irréversibles. Moïse n'a jamais vu la terre promise. Il peut y avoir des conséquences dans notre manière de porter les fardeaux qui vont nous emmener à murmurer, à nous rebeller contre le Seigneur, qui peuvent causer des problèmes irréversibles. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner. Lorsque je parlais tout à l'heure que certains, quand ils ont des problèmes, ils accumulent. Toi, tu arrives là, c'est la colère qui se manifeste. Mais pour certains bien-aimés qui ont accumulé des colères, là, je parle plus d'une manière générale. Des problèmes sur problèmes, facture sur facture. Le jour où le huissier vient, il prend la carabine, il tire, bien-aimé. Mais on ne peut plus faire marche arrière, le mal a déjà été fait. Ce n'est pas comme s'il avait piqué une colère. Il a pris le fusil, il a tiré. Et ça, ce sont des faits qu'on entend aux informations. Parce que les personnes sont débordées. Accumuler, bien-aimé, des fardeaux peut nous emmener à prendre des décisions même graves pour notre propre vie. Des décisions à la va-vite parce qu'on est excédé. On signe un papier, on signe un contrat, bien-aimé. Et c'est quelque temps après qu'on se rend compte, quand on lit bien, il ne fallait pas signer. On est dans des problèmes. Et la Bible le dit, dans Proverbe 20, 25, que c'est un mal pour l'homme que de prendre des engagements, bien-aimé, sans avoir calculé, sans avoir évalué. C'est dangereux pour l'homme, bien-aimé, de réagir simplement, de réagir tout de suite et de réfléchir après. Mais tout ça, bien-aimé, c'est dû au fait de l'accumulation des soucis, des problèmes de la vie. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Voilà la proposition que Dieu nous fait, bien-aimés. Nous allons voir l'exemple dans Actes chapitre 20. L'exemple de l'apôtre Paul, bien-aimé, comme nous en voyons rarement aujourd'hui. J'ai entendu un témoignage récemment. Il y avait une assemblée qui était en réunion parce que cette assemblée était gérée par une autre plus grande assemblée. Alors, dans la petite assemblée, les gens qui dirigent ont décidé de mettre quelqu'un d'autre à la place maintenant. Alors, celui qu'on a tenté d'enlever au pouvoir s'est rebellé, bien-aimé. Il a refusé jusqu'à appeler les policiers pour faire arrêter le culte. Il a fait intégrant qu'il avait certainement des connaissances. Donc, comme vous savez, en Afrique, souvent, quand tu as un peu d'argent, tu peux régler les choses de manière rapide. Alors il a fait intervenir les policiers, les militaires sont venus, ils ont interrompu le culte, bien-aimé. Parce qu'on avait décidé que ce pasteur-là devait aller ailleurs, lui il ne voulait pas, sa place c'était là. Sa place c'était là. Nous lisons, on garde cet exemple-là, bien-aimé, et nous allons comprendre, acte 20 au verset 25. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. L'apôtre Paul est resté des années avec les anciens, avec l'église d'Éphèse. Il a prêché jour et nuit. Bien aimé, au-delà d'une certaine récompense que l'homme peut attendre, en se disant, j'ai quand même investi, il faut que je récolte. Il y avait quand même l'attachement avec les uns et les autres. C'était un départ qui n'était pas facile. Il dit, à présent, vous ne verrez plus mon visage. C'est difficile lorsqu'on vit avec des personnes pendant des années et qu'au bout d'un temps, les choses nous amènent à nous séparer. C'est difficile. Sur le plan sentimental, ça fait mal. Mais c'était la volonté de Dieu. Et l'apôtre dit encore, je sais qu'il y aura parmi vous des loups qui viendront. Ils vont chercher à vous disperser. Ils vont vous enseigner toutes sortes de choses pernicieuses. Il dit, je sais que ces choses-là vont arriver. Bien-aimés, vous imaginez la souffrance que des parents peuvent avoir. Tu prends ton enfant, pour des raisons ou pour des autres, tu vas les confier dans une famille où il y a l'inceste, dans une famille où peut-être le père est drogué. Tu dis, mais je suis obligé de te laisser là. Bien-aimé, quel déchirement ça peut faire au cœur. Et l'apôtre Paul dit, je vous laisse, mais je sais que toutes ces choses vont arriver. Parce qu'à un moment donné, bien-aimé, il a su faire la différence entre sa part et la part de Dieu. Il a pu porter un fardeau pendant un temps en enseignant ce peuple-là, en faisant ce que Dieu attendait de lui. Mais il devait venir aussi le temps où Dieu, il devait tout déposer aux pieds de Dieu. Il a dit, je vous recommande, entre les mains de Dieu, entre la parole de Dieu. J'ai fait ce que j'ai pu maintenant, je vous laisse. Parce qu'en réalité, ce n'était pas à lui. Il n'était qu'un gestionnaire de ce fardeau que Dieu lui avait confié. Et au bout d'un moment, il devait le remettre aux mains du Seigneur. Bien-aimé, acceptons de recommander à un moment donné nos enfants entre les mains de Dieu. Il y en a, ils sont mariés. Mais les parents agissent sur le couple comme si l'enfant était encore à la maison. L'enfant est loin. Même pour prendre certaines décisions de la vie de tous les jours, il faut qu'il appelle à 7000 kilomètres, bien-aimé. Il dit, je vous recommande entre Dieu, entre la parole de Dieu, je vous recommande à Dieu. Le Seigneur, bien-aimé, dans Jean 17, il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Aucun de ceux que tu m'as donné, parce qu'ils étaient à toi. Voilà tout ce que tu m'as confié, Seigneur, ils sont là. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Ce que tu m'as confié, Seigneur, voici, je te les remets. Le Seigneur partait, il avait passé du temps avec ses disciples. Quel déchirement, bien-aimé, pour les disciples, de voir leur maître partir. Quelle difficulté ça pouvait être pour le Seigneur de laisser ses disciples, sachant que les persécutions allaient arriver, que des choses difficiles allaient arriver, mais parce que les choses étaient ainsi, parce que Dieu avait voulu que les choses soient ainsi. Ils ont accepté de porter le fardeau, mais le temps de le déposer aux pieds du Seigneur. Ils ont fait leur part. Lorsque Dieu nous confie, bien-aimés, un fardeau, quel qu'il soit, limitons-nous à faire notre part. Nous ne pouvons pas souffrir plus que Dieu, bien-aimés, c'est impossible. On ne peut pas souffrir plus que Dieu. Et c'est dans notre intérêt que le Seigneur nous demande de nous décharger sur lui. Les gens pourraient dire, mais Paul, tu es inconscient, comment tu le laisses alors que tu sais que les choses sont difficiles? Et tu dis bien que les loups viendront et tu les abandonnes comme ça. Les gens, sur un point extérieur, pouvaient dire ces choses-là. Et c'est ce qu'ils diront, bien-aimés, lorsqu'ils verront notre attitude, qui peut paraître désintéressée par rapport au problème que tout le monde connaît. Mais cet homme, c'est un insensé. Cet homme est fou. Ah, ben voilà. Ça, c'est les enseignements qu'ils reçoivent dans leur église, là. Voilà. C'est comme ça que les gens parleront, bien-aimés. Mais l'apôtre savait que non, il faisait la volonté de Dieu. J'ai fait ce que j'ai pu maintenant, je vous recommande entre les mains du Seigneur. Et voici ce qu'il dit au verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Donc l'apôtre était conscient que bien que le travail avait pu faire, même si c'était un travail que nous pouvons juger comme conséquent, mais il savait bien que c'était un travail qui était limité. Il dit, malgré que j'ai fait ces choses-là, moi je ne peux pas vous donner l'héritage. Mais je vous recommande entre les mains de celui qui peut sauver, de celui qui peut édifier. Bien que moi j'ai enseigné, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai fait ma part de parler, mais si le Saint-Esprit ne fait pas son rôle, alors ma parole a été vaine. Il dit, moi je vous recommande entre les mains de celui qui peut vous édifier, qui peut vous faire comprendre ce que je vous ai prêché. C'est ça qui est le plus important. Bien-aimés, nous pleurons pour les membres de nos familles. Mais recommandons-les entre les mains de celui qui peut les sauver, de celui qui peut transformer leur cœur. Bien-aimés, ce n'est pas par l'éducation que nous pouvons donner à nos enfants que nous allons changer leur cœur, bien-aimés. Par des méthodes, par des tactiques, bien-aimés, par des privations que nous pouvons changer leur cœur. Nous devons prendre des mesures parce que Dieu nous les demande. Mais n'espérons pas qu'à travers ces mesures-là, le cœur de l'enfant changera. Le cœur de l'enfant changera parce que c'est Dieu qui le changera. Nous n'avons pas cette possibilité, bien-aimés, parce que si l'homme pouvait changer les cœurs, bien-aimés, alors à travers les radars, à travers les feux, à travers les stops, tout le monde allait les respecter. Mais le vrai problème, c'est dans le cœur de l'homme. Donc bien qu'il y a toutes ces mesures qui sont prises, les hommes continuent à brûler les feux rouges, à passer les stops, à se faire flasher, bien-aimés. pour le bon compte de l'État, tout simplement. Les gens continuent à le faire. Donc, si c'était par des mesures qu'on pouvait changer le cœur de l'homme, alors les choses auraient changé rapidement. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, à travers cette paix que le monde donne, nous montre bien que non, c'est impossible. Les mesures humaines ne peuvent pas satisfaire, ne peuvent pas donner la paix à l'homme, ne peuvent pas changer son cœur. L'apôtre dit, moi je vous recommande entre celui qui peut vous édifier et vous faire entrer dans votre héritage. Moi je ne peux pas. Bien-aimés, nous ne pouvons pas donner le salut à notre famille. Tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, convertir les gens par nos belles paroles. On ne peut pas convaincre les gens, bien-aimés, leur faire accepter l'évangile à coups de marteau, bien-aimés. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, bien-aimés. Mais nous pouvons simplement les recommander entre les mains de celui qui peut changer leur cœur, de celui qui peut les transformer. C'est ça que Dieu nous demande. Porter le fardeau, le temps de le déposer à celui qui est le maître des temps et des circonstances, à celui qui peut faire périr l'âme et comme à celui qui peut faire vivre l'âme. C'est ça notre rôle, bien-aimés. Ne nous chargeons pas de fardeau qui va nous rendre la vie difficile. Et beaucoup, bien-aimés, disent, mais la vie chrétienne, c'est trop difficile. C'est difficile lorsqu'on porte les fardeaux, bien-aimés. C'est difficile. Mais lorsqu'on sait déposer nos fardeaux au pied du Seigneur, alors on se rend compte que oui, le fardeau du Seigneur, c'est un fardeau qui est léger, c'est un fardeau qui est doux. Dieu est bon. Et s'il est bon, il ne peut nous donner que de bonnes choses. Quelqu'un qui est bon ne peut pas donner de mauvaises choses. Donc si nous confessons, nous chantons que Dieu est bon, donc réalisons aussi que tout ce qu'il permet est bon. Même si on n'a pas compris, c'est tout simplement nous qui portons mal les fardeaux, bien-aimés. Humilions-nous, repentons-nous et acceptons, bien-aimés, le fardeau du Seigneur. On clôture avec Ésaïe 53. Lorsqu'on refuse de déposer les fardeaux, bien-aimés, c'est aussi la démonstration que notre vie en réalité n'appartient pas au Seigneur. Lorsqu'on a le souci même pour nous-mêmes, c'est la démonstration qu'en réalité notre vie est encore à nous, bien-aimés. Notre vie est encore à nous. On ne peut pas se rebeller pour le Seigneur pour une raison quelconque. Comme je dis souvent, si réellement on a donné notre vie au Seigneur, on n'a plus rien à demander en échange. Et je donne souvent cet exemple que si aujourd'hui tu me donnes une voiture, bien-aimée, tu viens chez moi, tu trouves toujours la voiture bien garée dans le garage. Tu vas me dire, oui, mais je t'ai donné la voiture, tu n'utilises pas. Je dis, mais c'est ma voiture, moi je la trouve belle là, j'aime la regarder. Où est ton problème? Alors, si ta vie appartient à Dieu, où est ton problème si tu n'utilises pas, bien-aimé? Où est ton problème? Puisque ta vie appartient à Dieu, laisse-lui faire ce qu'il veut avec. Alléluia. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses séjours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Voilà l'œuvre du Seigneur bien-aimé. Et à chaque fois que nous souffrons à cause des fardeaux que nous portons, bien-aimés, nous rendons ce sacrifice nul. C'est comme s'il a souffert pour rien. Il a porté nos péchés, il a porté nos souffrances, bien-aimés. Donc à chaque fois que nous sommes tristes, c'est comme si le sacrifice n'a pas été total. C'est comme si ce que Dieu a fait, il manquait encore quelque chose pour nous donner cette paix. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Tout est accompli. Le Seigneur a tout fait pour que nous puissions avoir une vie de paix. Il a payé le prix. C'est à nous, bien-aimés, de nous saisir de ce qu'il nous propose pour vivre réellement cette paix. Déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux, la Bible dit, car lui-même prend soin de nous. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Éternel, tu es vivant, Seigneur de gloire. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur de gloire. Nous voyons, Seigneur, combien les hommes de ce monde, Seigneur de gloire, courent, font des recherches, Seigneur de gloire, se perdent dans l'alcool, dans la drogue, Seigneur, pour avoir cette paix que l'homme cherche tant. Ils fabriquent des armes, Seigneur de gloire. Ils ont créé de nouveaux, Seigneur. Ils recrutent davantage de militaires, Seigneur de gloire, pour garantir une paix, Seigneur. Mais voici, Seigneur de gloire, par ton sacrifice à la croix, aujourd'hui encore, tu nous proposes cette paix que le monde recherche comme de l'or, Seigneur de gloire. Seigneur, tu nous la proposes gratuitement. Gratuitement, Seigneur de gloire, tu nous la donnes, Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur de gloire. Oh, Seigneur de gloire. Aussi vrai, Seigneur de gloire, que aucun livre du monde ne peut contenir tous les miracles que tu as faits, Seigneur. Aussi vrai, Seigneur de gloire, aucun mot de ce monde, Seigneur de gloire, ne peut totalement expliquer combien tu es bon, Seigneur. Tu es mort pour nous, Seigneur de gloire. Méprisé, Seigneur de gloire. Abandonné, Seigneur. Nous qui étions errants, Seigneur de gloire, tu t'es révélé à nous et tu nous proposes la vie gratuitement. Seigneur de gloire, où aller encore, Seigneur? Où aller encore, Seigneur de gloire? Aide-nous ce matin à réaliser, Seigneur, qu'auprès de toi, nous avons toutes choses. Aide-nous à réaliser, Seigneur, que si tu es la source de la vie, Seigneur de gloire, c'est que tu contiens tout ce dont la vie a besoin, Seigneur. Car c'est toi qui produis cette vie. Seigneur, pourquoi aller ailleurs, Seigneur de gloire, en nous confiant dans des administrations, Seigneur, en nous confiant dans des médicaments, Seigneur de gloire. Oh Seigneur, tu es Dieu. Aide-nous, Seigneur de gloire, à te faire confiance, Seigneur, car il n'y a que par ce moyen que nous pourrions vivre cette paix, Seigneur de gloire, chaque jour, Seigneur. Seigneur, beaucoup ont confié leur paix dans des hommes, Seigneur. Mais lorsque ces hommes sont morts, Seigneur de gloire, ils sont morts aussi avec cette paix. Seigneur, beaucoup avaient mis leur paix, Seigneur de gloire, dans leur richesse matérielle. Mais lorsque la crise a frappé, Seigneur de gloire, cette paix est aussi morte avec cette richesse, Seigneur. Seigneur, mais nous, Seigneur de gloire, celui qui se confie en toi, Seigneur, a une paix éternelle, Seigneur, parce que toi, tu es éternel. Tu ne meurs plus, Seigneur de gloire. Tu as dit dans ta parole, j'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et c'est une paix éternelle, Seigneur de gloire, que tu nous proposes aujourd'hui encore, Seigneur de gloire. Car tu as vaincu la mort, Seigneur. Oh, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur de gloire, ce matin, restaure notre foi, Seigneur. Car le juste vivra par la foi. Seigneur, ce matin, Seigneur, augmente notre foi. Tu vois, Seigneur de gloire, les séquelles que les fardeaux ont laissées, Seigneur, parce que nous les avons mal portées. Seigneur, mais c'est toi qui restaures. C'est toi qui panses les blessures, Seigneur de gloire, car c'est toi qui es le bon berger. Seigneur de gloire, nous sommes tes brebis et nous venons devant toi, Seigneur, avec nos blessures, afin qu'elles soient pansées, qu'elles soient soignées, Seigneur de gloire. Dans le nom de Jésus, Seigneur de gloire, tu es fidèle à ta parole, car tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous nous attendons à toi. Bien-aimé, levons-nous, bien-aimé, et chantons ce cantique-là comme une prière. Réalisons, bien-aimé, qu'il n'y a pas un autre trésor que Jésus. Il n'y a pas une autre paix que le Seigneur peut donner.
Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Chercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi.
Oh, prends-moi, Seigneur,
dans mon état,
Seigneur, que je suis
papa. Dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. De mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi.
Ô Christ est la vie,
Christ est la vie, recherchée de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. De mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Ma foi.
Prends-moi, Seigneur.
Prends-moi,
Seigneur. Prends-moi
dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi.
C'est ma prière. Prends-moi, je t'en prie, Seigneur.
Prends-moi,
dans mon état.
Jacob, soutiens ma foi.